à tous. Donc, je m'appelle Antoine Bernabeu, donc je suis en thèse au LS2N et donc avec Hugo Raymond qui est donc en thèse à l'INRIA, on va vous faire un point sur les systèmes intermittents et les systèmes sans batterie pour donc les nœuds IoT. Donc pour le plan, une petite intro, les systèmes intermittents, puis nos travaux dans ce domaine-là. Alors, donc vous savez à peu près tous ces chiffres en tête, mais je pense que c'est important quand même de les rappeler, c'est qu'on a aujourd'hui une bonne dizaine de milliards d'appareils en fait IoT en service, et donc c'est un chiffre qui va donc augmenter avec le temps. Et pour avoir un chiffre au niveau de l'ordre de grandeur de ce que consomment ces appareils, on prévoit donc qu'en 2025, ils vont consommer donc l'équivalent de 50 TWh sur un an, et donc c'est à peu près ce que a consommé donc le Portugal en 2015. Donc c'est quand même conséquent. Et donc un des principaux soucis va être comment donc alimenter ces nœuds, parce que donc aujourd'hui ils sont principalement alimentés via des piles ou des batteries, et donc ça pose quand même un coût écologique, puisque les piles on recycle un peu mais on jette aussi. Les batteries, c'est à peu près donc la même chose. Et ça pose également donc un coût de maintenance, puisque faut aller sur place, donc proche du nœud pour changer donc ses piles et ses batteries. Et donc une alternative serait donc juste d'enlever en fait la batterie ou les piles, et donc d'avoir une architecture batteryless. Donc ici ce serait ce type d'architecture là, avec donc à droite un système IoT, je pense, plutôt classique, avec un CPU, une chip radio, des capteurs, et ensuite donc de la mémoire volatile type donc SRAM et non volatile type FRAM ou STT-RAM ou MRAM. On va juste éviter un peu la flash, parce que ça coûte assez cher en temps et en énergie pour écrire et lire. Et donc à gauche, on va avoir un système qui va donc récolter donc l'énergie donc ambiante. Donc là, on a plusieurs grandeur physique que l'on peut donc exploiter, donc le solaire, les vibrations, les ondes radio, bon, voilà. Et entre les deux, donc on va juste mettre un condensateur en fait, pour juste avoir un buffer entre la récolte et ce qu'on va donc et en fait l'alimentation de notre système. Et donc typiquement, il y a tout un tas d'applications où on peut avoir ce genre de système. Par exemple, là, j'ai pris donc une application que j'ai trouvée dans une soumission de 2020, où en fait, il monitore donc un site historique à Rome. Et donc là, donc c'est un site archéologique, donc le Circus Maximus, et en fait vu que c'est donc protégé par l'UNESCO, il y a donc un accès en fait restreint, et il monitore donc humidité, vibration et température. Et en fait ils ont eu donc l'idée donc de mettre à la fois des nœuds donc avec batterie et sans, et en Et donc, ils ont fait ça sur une période assez longue, de 1 an et demi. Et en 2019, bah, donc avec le Covid, ils ont été donc incapables d'aller sur place pour changer donc les piles. Et en fait, bah, j'ai juste les nœuds donc sans batterie ont continué à envoyer donc leurs données. Donc là, je vais le passer donc la parole à Hugo.
Bonjour à tous. Alors donc, on a vu que les systèmes sans batterie, ça pourrait être intéressant pour beaucoup de cas d'usage. Et dans cette section, on va parler un peu plus de quelles sont les conséquences de ne pas avoir de batterie et plus exactement, quelles sont les conséquences sur le modèle d'exécution qui est le modèle d'exécution de calcul intermittent. Donc on l'a dit, les systèmes sans batterie, ils exploitent l'énergie qui est disponible dans leur environnement. Ça permet d'avoir peu, voire pas de maintenance sur ces systèmes et ça permet de réduire leur impact environnemental. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que l'énergie qu'on peut récolter, elle est faible et en général, elle varie beaucoup dans le temps. Et de manière générale, en fait, on ne va pas avoir assez d'énergie pour alimenter la plateforme de manière continue. Et donc, on peut oublier en fait, le modèle d'exécution continue qu'on a jusqu'à présent pour les programmes. Et il faut switcher sur du coup, un système de calcul différent qui est le calcul intermittent. Alors, le calcul intermittent, c'est assez simple. En fait, on va avoir des phases d'exécution pendant lesquelles on va consommer l'énergie qui est stocké dans le condensateur. Et une fois qu'on n'a plus d'énergie, on éteint la plateforme le temps qu'elle récupère en fait, de l'énergie. Le problème qu'on va avoir avec un tel système, c'est que quand on va éteindre la plateforme, on va perdre toutes les données volatiles, donc les registres CPU, la mémoire volatile, et on va perdre entre guillemets tout le progrès qu'on a accumulé pendant les phases de calcul. Donc pour contrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des systèmes de checkpointing. En fait, on va sauvegarder les données volatiles avant que la plateforme ne s'éteigne. Et quand on va rallumer la plateforme, on va restaurer ces données volatiles pour reprendre en fait l'exécution de là où on en était. Pour faire ça, on a différentes techniques qui sont disponibles. Une des techniques que je présente ici, c'est le checkpointing statique. Donc on va en fait instrumenter notre programme en rajoutant des instructions pour sauvegarder les données volatiles à certains endroits du code. Alors, quelle que soit la technique de checkpointing choisie, on va avoir en fait un peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que si on fait des sauvegardes trop souvent, on va passer le plus clair de notre temps dans les sauvegardes et donc on va avoir un important overhead. Et si on ne fait pas assez de sauvegardes, en fait, on peut risquer le fait de ne pas pouvoir sauvegarder avant une coupure de courant. Et là, en fait, on ne fait plus du tout de progrès et on peut se retrouver à exécuter en boucle en fait, une même partie de code. Pour lutter contre ça, en fait, on essaie de mettre en place des mécanismes et donc on a deux contributions qui s'intéressent à du coup comment résoudre le problème du calcul intermittent. La première, c'est une solution développée par Antoine qui s'appelle Resurrect et qui part d'un programme découpé en plusieurs tâches et va essayer d'ordonnancer au runtime les tâches en fonction de l'énergie qui est disponible. La deuxième solution, c'est Héloïse. C'est une technique que je développe qui permet, en fait, en prenant un programme, de l'instrumenter avec des points de sauvegarde et de choisir à quel endroit on va placer les variables du programme pour minimiser, en fait, la consommation énergétique de ce type de programme. Je laisse la parole à Antoine.
Alors oui, donc pour Resurrect, donc en fait. Le but, c'est en fait de juste lancer un code si on est sûr et certain d'arriver au bout. Et donc ainsi d'avoir une liste en fait d'ordonnancement possible. Oui. Et donc d'avoir une liste d'ordonnancement en fait. Possible que l'on va ensuite choisir online quoi. Donc ce qu'on va faire c'est que de manière hors ligne en fait on va générer tous ces ordonnancements donc avec le but de faire donc le plus de code en fait possible avec donc une contrainte en énergie. Et donc on se base sur le pire cas, Ça veut dire donc qu'on va prendre en compte que bah, le fait qu'on n'a aucun donc harvesting et en plus en fait nous sommes dans le worst case pour donc la consommation énergétique. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un modèle de haut niveau, donc avec des time et Petrinet, avec donc le coût pour notre énergie et donc la récompense pour notre avancement dans le code. Et donc ainsi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer tous ces ordonnancements. Donc typiquement sur le graphe en haut, ça sera donc trois ordonnancements possibles pour trois donc niveaux d'énergie de départ. Et donc on va faire ça pour chaque état de notre système, et à la fin donc avoir cet automate en fait, donc un bac qui va être donc avec chaque état qui sera donc nos états de notre système, et chaque transition donc qui sera un ordonnancement possible, donc avec une garde sur l'énergie de départ. Et ensuite en fait donc online on va donc faire en fait le choix de chaque ordonnancement au fur et à mesure, vu que on ne sait pas hein, en fait ce que l'on va récolter. Donc typiquement ici en pointillé, c'est donc l'ordonnancement sans donc harvesting, mais en ligne donc on risque d'avoir du harvesting, et donc en fait à la fin de notre ordonnancement on va avoir donc un niveau d'énergie qui sera donc certainement plus haut, et donc à ce moment-là on va refaire un choix pour notre prochain donc ordonnancement, et donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on tombe donc sur un niveau où on ne puisse plus faire de choix, et qu'à ce moment-là donc on dort. Et donc on a intégré donc Resurrect dans un OS temps réel qui est donc Trampoline, qui est développé au LS2N, et donc pour les performances, vu que l'on passe moins donc de temps dans notre overhead pour donc gérer notre intermittence, et ben on va plus vite que pour faire notre application. Et donc là c'est juste une comparaison par rapport à des runtime intermittent de l'état de l'art, et on voit qu'on va donc plus vite que les autres. Donc voilà, je vais passer donc à Hugo pour Héloïse.
Merci beaucoup. Alors moi de mon côté, je me place dans le contexte où on a un programme qui n'est pas déjà découpé en tâches, et mon but ça va être d'essayer d'instrumenter ce programme pour garantir le progrès du programme et essayer de minimiser la consommation énergétique de ce programme. Du coup, nous on se place à la compilation, et à la compilation on va venir placer des points de sauvegarde dans le programme et déterminer l'allocation mémoire à choisir pour chacune des variables. Notre but, comme j'ai dit, c'est d'assurer le progrès du programme tout en réduisant la consommation énergétique. Donc la problématique du checkpoint du placement de checkpoint, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on a plusieurs endroits possibles pour le placement des checkpoints, et il faut se demander où est-ce que c'est vraiment important d'en mettre pour qu'on puisse garantir le progrès sans avoir trop d'overhead. Donc pour ça, on va se poser la question de combien mon bout de programme il consomme par rapport à l'énergie que j'ai disponible, et si on consomme moins que l'énergie disponible, on peut mettre juste un point de sauvegarde avant et un point de sauvegarde après, et on sait qu'on va pouvoir atteindre le deuxième point de sauvegarde depuis le premier. Pour ça, on a besoin de savoir combien d'énergie on a disponible. Alors moi, de mon côté, je suis à la compilation. Donc à la compilation, je peux être uniquement sûr que L'énergie que j'ai, c'est à minima celle qui est contenue dans mon condensateur quand je redémarre. Et donc, j'essaie de comparer ça par rapport à la consommation énergétique du code. Donc, pour ça, on se base sur un modèle PIRCA de la consommation du code. Mais on a un petit problème, c'est-à-dire que selon où sont stockées les variables, en fait, le coût d'exécution d'un programme, il n'est pas le même. En fait, la mémoire non volatile, elle consomme plus que la mémoire volatile. Elle consomme, donc sur la plateforme sur laquelle on est, elle peut consommer jusqu'à 2,5 fois plus la mémoire non volatile. Ok, donc je vais courir. Et du coup, on va se poser la question de où est-ce qu'on alloue les variables. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc notamment le nombre d'accès qu'on fait à une variable, parce que comme il va falloir sauvegarder les variables, ça ne sert à rien de charger une variable en mémoire volatile si c'est pour effectuer un seul accès. On va se poser la question de la taille de la variable, de la durée de vie de la variable. Et donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails d'implémentation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche. C'est qu'on arrive à du coup garantir le progrès du programme, même dans des conditions d'extrême intermittence, là où d'autres solutions de l'état de l'art ne peuvent pas le faire. Et de manière générale, on arrive à avoir une consommation moyenne réduite de 50% par rapport aux autres techniques de l'état de l'art. Et donc, pour conclure sur tout ça, du coup, les systèmes sans batterie, c'est une grande opportunité pour pouvoir faire de la mesure sans avoir besoin d'énormément de maintenance et en réduisant le coût environnemental des nœuds IoT. Ça a un petit impact, c'est que le modèle de calcul va changer et donc il va falloir s'adapter en développement des mécanismes. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers le projet NOP, qui est un projet ANR, où on essaye du coup de proposer des solutions pour gérer cette intermittence. Et notamment, on a un cas d'usage où on essaye de monitorer en fait les populations d'oiseaux pour faire de la protection de la faune aviaire. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.